tu vas te la fermer. Oui, oui, on disait ça aux résidents. Tu vas te la fermer. Et si ça se faisait, si ça marchait pas comme ça, toutes les techniques ont été utilisées là avec ma mère. L'intimidation verbale, l'intimidation, même on allait jusqu'à physiquement être imposant. Mais aussi, quand on voyait que ça fonctionnait pas, ben là, on pouvait y offrir un petit mois de gratuité là, pour plus que ça, pour plus qu'elle parle.
La Mauricie se lève. Que la Mauricie se lève. Votre source d'information. Voici Catherine Gaudreau.
Et juste avant de l'introduire, parce que lorsqu'on regarde le portrait dans la région, on a 176 résidences privées pour aînés. Cette année, il y en a 4 qui ont perdu leur certification. En 2019, il y avait la résidence Notre-Dame, un autre établissement opéré par le même groupe, les résidences Chemin du Roi, qui a fait l'objet d'une enquête pour des allégations de maltraitance. Les ministres responsables des aînés, elle est avec nous. Je la remercie d'ailleurs, Marguerite Blais. Bonjour, Madame Blais.
Bonjour, Mme Gaudreau.
Bonjour. Mme Blais, je sais à quel point c'est important pour vous, évidemment, le traitement qu'on réserve à nos aînés. Lorsque vous entendez des situations comme celle-là, et je vous le fais le décompte, là, de 4 résidences qui ont perdu leur certification, des résidences qui font face à des enquêtes pour allégations de maltraitance, le problème principal, Mme Blais, est-ce que c'est le fait qu'on donne des certifications trop rapidement? Le processus, y est-tu trop facile?
Non, ben, écoutez, je vais vous expliquer. Premièrement, vous savez que c'est pas le premier choix de fermer une résidence, puis privée pour aînés, puis c'est encore moins le choix de les rediriger, de les replacer. Mais il y a des situations où on n'a pas le choix. Vous savez, la certification qu'on est en train de revoir depuis 3 ans, puis de l'élargir, parce que la certification là des RPA vient encadrer les règles socio-sanitaires. Puis elle vient obliger les propriétaires à respecter les lois, les règlements des autres ministères, par exemple, MAPAC, la protection des incendies, la loi sur le tabac. Mais les plus grands problèmes qu'on rencontre dans les RPA sont ceux par rapport aux soins puis aux services. C'est là qu'on doit poser des gestes qui sont très significatifs, parce que quand il y a des inspecteurs qui vont dans les résidences, qui font des recommandations, puis que les recommandations sont pas appliquées, il y a un devoir de vigie sur les soins. Puis c'est pas évident dans la certification actuellement.
Okay.
Les commissaires aux plaintes à la qualité des services là sont au fait, sont aux premières lignes là. Tu sais, ils sont le point de chute de ces plaintes là. Puis c'est la raison aussi pour laquelle Mme Gaudreau, on a commencé hier l'étude article par article de la loi. On veut revoir la loi sur la maltraitance qui touche aux personnes en situation de vulnérabilité.
Okay.
Et là, il va y avoir des sanctions pénales pour les personnes qui ne signalent pas. Et hier, je peux pas entrer trop dans les détails parce qu'on l'a pas étudié, mais c'est quand même public qu'on a déposé au greffier, entre autres, un amendement, parce que les personnes qui maltraitent vont aussi, si c'est adopté, avoir des sanctions pénales.
Ah oui? Bon, il faut, c'est le temps, Mme Blais, il faut qu'on aille là.
Écoutez, on n'a pas le choix. Puis, vous savez, bien souvent, on a des commentaires, ça n'a pas de sens, le CIUSSS, il ferme la porte d'une résidence. Oui, mais tu sais, quand on accompagne le propriétaire, puis qu'on constate des lacunes, entre autres dans l'une des résidences, il y a des personnes très vulnérables au niveau, entre autres, au niveau psychosociaux. Alors, ces gens-là, là, qui sont en errance aussi, si le lieu n'est pas adapté, ça ne fonctionne pas. Si les gens marchent mal, ça ne fonctionne pas. S'ils ne sont pas en sécurité, ben, on a ce devoir-là.
Okay,
il s'est passé assez la même pendant la pandémie. Allez-y, Mme Gaudreau,
non, en fait, après. En fait, parce que, bon, puis bon, là, il y a un autre exemple cette semaine chez nous, là, cette résidence-là, puis je vous donnais un peu le portrait tout à l'heure. Ces propriétaires-là ont d'autres résidences. Il y a un endroit où on avait enquêté. Quand ça fait quelques fois, là, puis que c'est le même groupe de propriétaires, est-ce qu'on doit sonner l'alarme? Parce que je me mets à la place de proches de résidents qui habitent là, dans des résidences où ces gens-là sont propriétaires. Moi, je m'inquiéterais là, du soin qui est donné.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce que ces gens-là sont sous enquête?
Ben, écoutez, avec la nouvelle loi, là, quand elle sera adoptée, premièrement, c'est une loi qui touchait davantage les CHSLD.
Oui.
Là, ça va toucher les RPA, les RI, les RTF, toutes les personnes en situation de vulnérabilité, puis il y aura une obligation de signalement. Puis, on a renforcé, entre autres, la loi sur le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Et puis, on doit poursuivre. Et vous savez, la pandémie, là, ça a été très négatif. On a eu beaucoup de morts chez les aînés. Mais il ressort de ces situations-là tristes des constats.
Ouais.
Je vous donne un exemple. Les CIS et les CIUS accompagnaient beaucoup les propriétaires des résidences pour se conformer à la certification. Puis, ils étaient surtout présents quand, à un moment donné, le propriétaire décidait de fermer ses portes. Puis, souvent, là, il donnait pas 6 mois de préavis. Et puis, il fermait ses portes. Puis, là, il fallait trouver une place pour les personnes âgées qui étaient dans cette résidence-là pour se relocaliser ailleurs. Bien là, les PDG des CIS et des CIUS, pendant la pandémie, parce qu'ils ont été obligés de prêter main forte à l'intérieur des résidences, ont dit « ça va faire ». Ils ont commencé à travailler ensemble pour mettre sur pied un comité pour travailler pour que la qualité des soins et des services soit plus respectée à l'intérieur des résidences privées pour aînés.
Okay.
Ça découle de la pandémie.
Ouais, mais madame,
on s'est rendu compte.
Madame Blais, je m'excuse, je vous arrête parce que, oui, la pandémie, mais savez-vous quoi? La pandémie, il s'est passé des choses horribles, OK? On est tous d'accord là-dessus. Mais la pandémie a le dos large. Et quand je dis ça, c'est que Jean-Pierre, ce qu'il nous racontait, là, sa mère là, a déposé une plainte avant la pandémie. Les problèmes dans des résidences, là, il y en avait déjà avant. Alors, puis, savez-vous quoi? Je vais vous le faire entendre sur les délais d'intervention. Il dit, on était super bien accompagnés par le CIUS. Ils ont fait leur travail. Mais ça a été trop long. Voici ce qu'il nous a dit. La première plainte là, de votre mère, elle arrive quand, Jean-Pierre?
Elle date du début de l'année 2019.
Début 2019. OK. Et au total, elle début en a 2000... déposé combien, des plaintes?
En fait, elle en a déposé une.
OK.
Elle a appelé à quelques reprises jusqu'au moment où elle a compris en 2019, parce qu'elle avait appelé au CIUS avant 2019.
Okay.
Ça datait de 2018. Mm-hmm. Bon, évidemment... Quand on dépose une plainte formelle, là, on entame un processus extrêmement rigide.
Oui.
Et elle hésitait. En 2018, elle hésitait. Et c'est en 2019, finalement, qu'elle a déposé une plainte formelle. Et moi, en 2018 jusqu'à 2019, là, j'ai rencontré 3 fois le CIUS. J'ai été rencontré 3 fois. Ils ont très bien fait leur travail, mais c'était extrêmement long avant de voir le résultat. D'ailleurs, ma mère n'a jamais vu le résultat. Elle a dû quitter. Elle a dû quitter avant.
OK. Donc, elle a quitté avant que qu'on ferme officiellement.
Oui.
Alors, Madame Blesse, c'est une partie du problème. C'est que ça décourage
ben,
des
gens. D'accord avec
ça
lui.
Décourage ben, des gens de porter plainte.
Non, mais je suis d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on a changé la loi avec les commissaires aux plaintes et à la qualité des services. Dorénavant, là, ils doivent, ils ont l'obligation de déposer toutes les plaintes dans l'actif informationnel. Auparavant, il n'y avait pas cette obligation-là. Ils doivent aussi documenter les plaintes. C'est très important de documenter les plaintes.
Oui.
Ils vont devoir... Il y a maintenant un commissaire conseil au ministère de la Santé et des Services sociaux. On n'en veut plus des retards de cette nature-là. Et comme je vous le dis, avec la nouvelle mouture de la loi pour contrer la maltraitance, on va venir donner des leviers supplémentaires aux CIS et aux CIUS qui pourront faire une tutelle provisoire.
Mais Madame
Blais, il n'y avait pas ce levier-là, mais ils vont l'avoir.
Mais oui, ils vont l'avoir, mais là, maintenant, il y a quoi pour oui, OK, pour aider le CIUS, puis tant mieux, là, je me réjouis de ça, mais pour les gens maintenant là, qui ont à déposer une blague, qu'ils vivent actuellement, il se passe quoi? Les délais sont encore très longs?
Oui, mais ça s'est amélioré, puis ça va continuer de s'améliorer, puis on peut pas changer des cultures du jour au lendemain, là.
Ben, non, mais Madame Blais, on peut pas changer des cultures, mais on peut enlever des certifications plutôt qu'en 2 ans. On est-tu d'accord?
Oui. Et okay. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a dit à un moment donné, prenez l'exemple de Liverpool. Là.
Oui.
Ils ont accompagné à vitam aeternam le propriétaire de Liverpool. À un moment donné, là, il faut qu'on dise... Hey, là, il n'est pas capable de se conformer. Là. Donc, il n'est pas capable de se conformer. On lui enlève la certification. C'est comme ça que notre gouvernement voit les choses et c'est comme ça qu'on veut agir.
Okay.
Auparavant, on disait, on va les accompagner parce que peut-être qu'ils vont se corriger puis on ne sait pas où mettre les aînés. Mais là, ça ne peut plus fonctionner comme ça.
Madame Blais, hier...
Alors,
Il y a un autre, en fait, le fils d'un résident qui nous appelait, puis bon, qui vous interpellait directement. Et j'aimerais ça la rencontrer, Mme Blais. J'aimerais ça lui parler, puis qu'elle vienne voir, puis que... Est-ce que vous le faites, ça, à l'occasion? Tu sais, si, comme là, ici, là, il y a un problème là, avec deux résidences. Est-ce que vous intervenez parfois sur le terrain?
Ben, écoutez, j'ai visité plus de 100 CHSLD.
Non, je le sais, Mme Blais. Mais tu sais, quand il y a un problème quelque part, là...
Ben, écoutez, on pourrait peut-être y aller ensemble.
Ben, moi, je suis ouverte. Si vous me dites quand, pas aucun problème, Mme Blais.
Écoutez, je vais demander à mon attaché de presse de vous téléphoner.
Parfait.
Je vais aller faire un tour, on va aller voir. Moi, je considère qu'on apprend beaucoup quand on est sur le terrain puis qu'on voit les choses.
Mais Mme Blais, on est-tu d'accord sur une chose? Bon, je suis pas sûre que moi, je vais être super bien accueillie, mais on verra. Mais sinon, il y a une chose, Mme Blais. Faut pas que vous annonciez votre... Tu sais, que vous arrivez parce que c'est sûr que tout va être beau. On est-tu d'accord?
Ben, écoutez... Pensez-vous, là, quand j'ai visité les CHSLD, là,
ouais.
Quand je m'annonçais, là, tout était parfait.
Ben oui, c'est sûr.
Ou presque parfait, puis on m'attendait. Mais quand, là, je m'annonçais pas, puis que je demandais à voir le gestionnaire, c'est là qu'on a découvert qu'il n'y avait pas de gestionnaire dans tous les CHSLD. Okay. On a embauché 280. C'est là que je voyais aussi que j'étais capable de parler aux préposés qui trouvaient que... Elles étaient débordées, qu'il n'y en avait pas assez, qu'elles n'étaient pas assez payées.
Mais c'est
pour ça qu'on a été capable d'ajouter des choses. C'est en constatant sur le terrain qu'est-ce qui se passe.
Mais Mme Blais, puis je termine.
On n'est pas capable de faire des changements.
Mais savez-vous, puis j'aime l'idée, là, je ne dis pas non, mais savez-vous, ma crainte, c'est qu'après avoir entendu Jean-Pierre tout à l'heure, là, qui nous a raconté que sa mère avait été intimidée, qu'elle s'est fait dire « tu vas te la fermer », si c'est le cas, là, s'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qu'est-ce que vous pensez qui va se faire? On va dire, vous êtes mieux de ne pas parler, vous autres. Donc, si c'est ça qui se passe, là, vous êtes mieux de vous la fermer, sans quoi, trois petits points. C'est ça qui m'inquiète.
Ben, écoutez, quand j'ai fait ma consultation publique en 2007, on ne voulait même pas parler de maltraitance. C'était un sujet tabou. La maltraitance envers les personnes aînées vulnérables, là, c'était un véritable tabou. Et puis, on a déposé la première politique. Puis même, il y a des gens autour de moi qui me disaient, les aînés vulnérables, sont pas intimidés. Il y a seulement les femmes qui sont violentées puis les enfants. Écoutez, on part de loin, là.
Ouais.
Et moi, je suis certaine que plus on va pouvoir le dire, le nommer, le mentionner, c'est ça qui va faire changer la culture. C'est inacceptable qu'on maltraite à la fois des enfants ou des personnes vulnérables aînées ou des personnes en situation de handicap. Là.
Okay.
On ne peut pas accepter ça dans notre société.
D'accord.
Là.
Mme Blais, on garde contact. Je vais attendre l'appel de votre attaché avec plaisir. Ça va me faire plaisir d'y aller avec vous.
Ben, ça me fait plaisir.
Okay.
Je pense que c'est important d'inviter des personnes comme le fils de cette dame parce que c'est ça qui fait changer les choses.
OK. Merci, Mme Blais. À bientôt.
Bye.
Merci. Au revoir. Marguerite Blais, ministre responsable des aînés. Ça va me faire plaisir. C'est sûr que j'embarque. On va voir quel accueil on va recevoir, mais bon, ça, c'est un autre dossier.